Bonjour à toutes et à tous, Daniel Lejean, votre compagnie sur Radio Caraïbes, Nancy 90.7 pour avoir et à entendre. Et hier soir, je suis allé à Malraux pour voir une représentation d'un aspect artistique dont j'avais un peu peur ces derniers temps, je l'avoue. C'était une soirée hip-hop. Donc du hip-hop, j'en avais déjà vu à Jean Lotte. Ça s'était relativement mal passé. Et je m'étais juré de ne plus mettre les pieds dans ce genre de spectacle. Et puis hier, j'y suis allé. Et il y avait deux, tout comme ce soir d'ailleurs, ça, hein, ils remettent ça sur le plateau ce soir. Ça commence par un film, un petit reportage sur une classe de hip-hop à Nancy il y a 17 ans. Et de ce film ressortent deux hip-hoppers qui s'appellent Ahmed Brimouche et Mourad Garbaya, que l'on va voir arriver sur scène l'un après l'autre. Et ils se font une sorte de défi. L'un dansant des figures plus acrobatiques que l'autre, etc. Et puis le deuxième revient avec un énorme, mais vraiment énorme poste de radio transistor. Et très vite, c'est ce poste de radio qui prend la mainmise sur les deux protagonistes. Et c'est un spectacle absolument hilarant, et très 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 bien fait. C'est une vraie pièce de théâtre. Ça n'empêche pas la danse. Vraiment, c'est très 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 bien fait. Je vous conseille à tous d'y aller ce soir. Et puis en deuxième partie, il y a un Parisien qui s'appelle Olivier Lefrançois. Là, j'ai été un petit peu plus dubitatif. Oh, ce n'est pas que ce qu'il fait soit mauvais. Non, pas loin de là. Mais après avoir vu le duo Tolérance, Olivier Lefrançois qui essaye de systématiquer le hip-hop, de faire qu'en sorte la salle balance à son rythme, qui n'arrête pas de parler en plus. Il y a quelque chose qui me gêne beaucoup dans son jeu. Si vous y allez ce soir, vous aurez l'occasion de me redire après ce que vous en aurez pensé. Enfin, il y avait donc Olivier Lefrançois en guest star. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir un extrait. Oui, un extrait de La Soupe avec Benoît Fourchard. Salut Benoît.
Bonjour.
Antoine Arlot qui n'arrête pas de casser le matériel.
Elle est fatiguée.
Attends, c'est une vieille radio, elle tient pas à la table.
et puis Delphine Bardot. Ouais. Bonjour Delphine.
Bien plus sage qu'en toi.
Ah bah oui. Hein. Ah,
oui, ça, il n'y a pas de problème.
D'ailleurs, elle est à ma droite.
Alors, vous êtes en résidence au TGP. Alors, combien de temps déjà ?
2 ans et demi.
2 ans et demi.
3 ans, 2 ans et demi, oui.
D'accord.
C'est une résidence qui a commencé en demi-année.
Oui.
Voilà.
Donc, c'est une belle résidence.
Oui. Puis, c'est une résidence rare puisque c'est un nouveau principe de résidence qui a été mis en place par le conseil régional. Voilà, qui concerne une compagnie et une structure, pour ce qui est assez rare, pour faire de la recherche. Donc nous, concernant notre domaine d'activité, à savoir la marionnette, la musique, le théâtre, et puis justement, c'est l'occasion pour mélanger, expérimenter encore d'autres choses.
Alors, encore d'autres mélanges. Par exemple, pour ta gouverne, Tu vas plus loin dans le domaine de la marionnette que ce que tu as fait jusqu'à présent?
Je sais pas si on va plus loin, mais en tout cas, on essaie d'aller ailleurs. C'est un peu l'intérêt. Mmh. Plus loin, si, c'est sûr, puisqu'on a un temps de travail qui ne nécessite pas forcément de résultats. Donc là, c'est sûr qu'on peut se permettre de se perdre, de se tromper, d'aller gratter à des endroits où on ne va pas d'habitude. Et en ça, oui, on va plus loin.
Et donc, il y a certains éléments que tu gardes pour le jeu public.
Ben, disons que ces expériences-là feront peut-être l'objet de spectacles à venir. L'idée, c'est peut-être de créer des petites formes, des petites choses au départ à tester auprès du public et puis auprès d'un certain public, puisque ça concerne surtout le public du Val-de-Lorraine. Oui. Avec le TGP. Donc l'idée, c'est d'aller hors les murs, dans les bars, dans les médiathèques, et toucher peut-être d'autres gens que ceux qui se déplacent au TGP, à proprement parler.
Et puis, il y a un autre aspect aussi, c'est que pour la première fois, tu te mets à la mise en scène.
C'est pas la première fois.
C'est pas la première fois. Ah bon, autant pour moi.
Non, non, puisqu'avec La Soupe, on a déjà créé deux spectacles en diptyque. Un premier qu'avait mis en scène Benoît, justement. Et on a créé son pendant dans lequel joue Benoît et du coup que j'ai mis en scène.
D'accord.
Voilà, le premier, c'est Benoît qui l'avait mis en scène avec moi sur le plateau et voilà, c'était Vanité et Humeur. Oui. Donc là, j'avais déjà un petit peu touché à ce rôle-là, puis je l'avais fait par ailleurs en tant que regard extérieur, donc en assistana à la mise en scène. Mais là, c'est vrai que c'était le premier gros chantier. J'étais responsable, en fait.
Oui, donc pour Vanité qui est d'où tu fais sortir de petites Vanity, justement, d'où vient le nom, des poupées Barbie que tu...
Des bouts.
Des bouts, oui.
Qu'elles maltraitent.
Ouais. Oui, alors là,
qu'on maltraite et qu'on colle sur le corps, en fait. Ouais.
Et quant à humeur, c'est plutôt les humeurs du corps qui...
Comment on appelait ça? L'épopée sulfureuse d'un tout petit rebut. Voilà, c'est l'histoire, l'histoire d'une petite merde, en fait. Voilà. D'une mauvaise humeur qui cherche à devenir meilleure.
Et là, tu œuvres sur la mise en scène, mais dans une plus grande échelle.
Et là, c'est un petit peu différent, puisque... Vanité Humeur, c'était des projets personnels qui concernaient une équipe plus réduite. Là, c'est vraiment un projet d'équipe sur lequel toute La Soupe travaille depuis au moins 2 ans. Il y a eu plein d'étapes de travail et c'est un gros projet.
D'accord.
Et c'est un gros projet. J'aime le projet.
D'accord.
Mais je fais la mise en scène, mais pour le coup, c'est vraiment toute l'équipe qui s'est attelée à cette tâche-là, notamment Benoît, notamment Antoine, qui ne sont pas sur le plateau mais qui ont été à mes côtés tout le temps. Pour m'aider, m'orienter, puis pour qu'on... Voilà, c'est pas vraiment un travail, une mise en scène collective, mais en tout cas, c'est un travail très convivial et d'équipe, vraiment.
Oui, tu disais, c'est bon, c'est... dans cette direction-là, ça va. Là où tu veux aller maintenant, c'est peut-être plus...
Non, évidemment, voilà. Non. Ils lèvent la main avant de parler, puis je les autorise à dire quelque chose. Non, non, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plein de chantiers. Là, on a vraiment eu envie de confronter le texte à la marionnette et à la musique. Donc, Benoît, à qui je vais laisser la parole, est vraiment intervenu dans un premier temps pour l'adaptation théâtrale. À partir du roman, ce qui était déjà un sacré chantier puis une sacrée gageure pour nous. Oui. Et puis ensuite, sur tout l'aspect musical, on a Pierre Bosluc qui est sur le plateau, donc qui a composé, qui a créé toute la musique et tout l'environnement sonore du spectacle. Mais on avait Antoine aussi, qu'on avait la chance d'avoir avec nous, qui jouait le rôle d'oreille extérieure, justement, qui était plus à même que moi d'aider Pierre et de lui donner des moyens, des clés... pour s'aventurer aussi sur un terrain que Pierre connaissait pas nécessairement, des petites choses d'électroacoustique et la gestion en direct du son qui n'est pas que instrumental, on va dire.
D'accord.
Je dis pas de bêtises.
Un mois et demi de résidence, quand même, pour en arriver à une précision vraiment chirurgicale, on va dire. Ouais, c'est bien.
Bien.
En pire, on a tellement parlé hier.
Je me tourne vers toi, Benoît. Là, c'est encore une énième dramaturgie que tu as mis en, en chantier.
Dire que je suis extrêmement vieux et que je...
Ah, pas du tout.
Expérimenté.
Non, tu es quelqu'un dont le mot dramaturgie veut dire quelque chose.
Oui, oui, oui. Alors, ce qu'il faut préciser quand même, c'est qu'on est parti d'un commun accord, d'ailleurs, avec toute l'équipe, d'un roman de Joël Egloff qui s'appelle « Ce que je fais là, assis par terre ». Joël Egloff, c'est un romancier qui a écrit quatre romans et un recueil de nouvelles. Son ouvrage le plus connu, c'est « L'étourdissement », qui avait reçu le prix du Livre Inter en 2006, je crois. Et qu'on avait d'ailleurs, dans un premier temps, envisagé d'adapter... Et puis, quand je me suis renseigné auprès de l'éditeur, les droits étaient déjà pris, une adaptation au théâtral était en cours. Donc, on s'est penché sur un autre de ces romans, qui s'appelle donc « Ce que je fais là, assis par terre », qui nous a d'emblée tous plu, parce qu'il y avait un matériau de départ. Il a un sens de la situation extraordinaire, Egloff, des dialogues. Et puis, il y avait un matériau de départ assez propice à cette fusion qui existe dans la soupe, c'est-à-dire de mélanger à la fois de la marionnette, du théâtre et de la musique. Il y avait une sorte de pari un peu audacieux d'adapter ce roman qui, a priori, dans une première lecture, paraissait tout à fait inadaptable. Mais bon, il y avait quelque chose qui était obligé... on est obligé d'aller chercher du côté de l'imaginaire et la marionnette apporte énormément ça. Du coup, on est parti sur ce projet d'adaptation.
C'est pas uniquement par défaut.
C'est pas par défaut, non, au contraire, on est vraiment été... Et puis alors, il y a aussi cette dimension chez Egloff qu'on a tous beaucoup aimé, moi particulièrement en tant qu'auteur également, c'est son humour noir. D'ailleurs, ce livre avait reçu le prix de l'humour noir en 2004. Donc il y a cette dimension aussi très grinçante dans le ton et dans le sujet abordé, dans le traitement qu'il en fait, qui nous avait complètement emballé, qui était... complètement en harmonie avec la démarche de la compagnie et même la démarche de chacun de ces individus, je dirais, quoi, dans chacun ses spécialités.
Qu'est-ce qui a été le moins facile ou le plus difficile dans cette adaptation d'un livre à mettre sur scène?
Oui, c'est le fait d'être obligé de couper
oui,
les choses.
Certainement.
Il y a eu beaucoup de deuil.
Oui. C'est-à-dire qu'en fait, quand, on a travaillé par étapes, comme disait Delphine tout à l'heure. C'est vrai que c'est un travail qui a pris 2 ans, parce qu'il y a eu un certain nombre de péripéties dans l'aventure de la compagnie qui a fait que ça a été repoussé, etc. Mais en même temps, ça nous a vraiment laissé le temps de mûrir le texte de base, celui qui nous sert, qui a servi à Delphine à faire la mise en scène. Mais... qui a été fait par étapes, c'est-à-dire qu'une première adaptation que j'avais faite devait faire dans les 50 pages. 50 pages, on était parti sur 2h, 2h30 de spectacle. Donc on a procédé par entonnoir, en quelque sorte, mais avec chaque étape, un travail de deuil, effectivement, de certains personnages qu'on abandonnait, des situations, de passage de cette... parce que c'est une sorte de road movie urbain et un peu immobile, un peu dans la tête du personnage principal. Mais chacune des étapes qu'on a été obligé d'abandonner, c'est vrai qu'il y a eu un deuil, ça c'est peut-être la chose la plus difficile à faire. Mais en même temps, s'immerger totalement dans l'univers de quelqu'un d'autre qu'on aime bien, c'est aussi très excitant. Et enfin, moi j'ai trouvé ça finalement pas si compliqué de travailler sur l'adaptation, parce que il y a tous ces ingrédients dans lesquels je me retrouve moi. Dans un premier temps, complètement. C'est-à-dire cet humour, ces situations totalement saugrenues, ces personnages borderline, comme moi j'aime bien aussi les aborder dans mon propre travail d'écriture. Ce qui fait qu'il y a eu une forme d'osmose complète avec l'univers d'Egloff, quoi.
Mais on peut dire que tu es resté absolument fidèle ou est-ce que tu as pris quelques chemins de traverse?
Je crois dire qu'il y a une fidélité à la structure narrative du roman, au personnage, au dialogue. Alors évidemment, il y a des raccourcis qui nécessitent, si on veut pas qu'ils soient trop raides aux entournures, on va dire, dans les transitions, des petites choses, un peu d'huile, quoi, pour passer d'une situation à l'autre. Situation qui, dans le roman, sont amenées, avec toute la littérature qui le permet. Au théâtre, on est obligé de travailler sur le raccourci. Mais ce qu'on voulait absolument, et ça je crois que toute la compagnie était d'accord, c'était garder ou proposer au spectateur la même impression que nous on avait eue en lisant le roman. Donc je me suis efforcé, à la fois par respect pour l'auteur, mais c'est pas un respect, c'est pas une flagornerie, hein, parce que c'est vraiment, je trouve que tout est là dans son roman, mais aussi pour essayer vraiment d'avoir cette, fournir cette émotion au spectateur que nous on a eu en lisant le roman. Alors je ne sais pas si on y est complètement parvenu, j'ai l'impression en partie quand même, enfin en grande partie, grâce à ce que disait Delphine, à toutes ces... cette corrélation de savoir-faire, on va dire, de très modestement, et de pratiques différentes des uns et des autres. Autant Pierre, musicalement, propose une ambiance qui, moi, je trouve complètement raccord avec la petite musique qu'on entend en lisant le livre. Dans le jeu des personnages, l'interprétation d'Éric et Alex, Éric Dominicone et Alex Picard, est exactement, enfin, ils sont les personnages que nous, on a lus dans le bouquin. On a tenté de s'approcher de ça. Alors, il y a évidemment tout le travail de mise en scène et direction d'acteur de Delphine, à qui je rends un vibrant hommage aujourd'hui, qui fait qu'il y a un prolongement. Bon, c'est vrai qu'avec Delphine, ça fait maintenant 7-8 ans, on avait comptabilisé l'autre jour le nombre de spectacles sur lesquels on a travaillé ensemble. Je crois qu'on est à une douzaine, hein, depuis 6 ou 7 ans. Donc, on a une sorte de complicité, de connivence, ou même de choses où on n'a pas besoin de se dire les choses, où on se repasse le relais, on n'hésite pas à s'engueuler et à se réconcilier le lendemain.
Pas le lendemain, va.
Le jour même.
En général.
Oui, donc, c'est vrai que ce...
Ça se passe très vite.
Ouais.
Oui, puis c'est toujours du conflit très productif. Enfin,
voilà. C'est ce qu'il faut.
Voilà, c'est pas des histoires de personnes, c'est des histoires d'idées.
Oui, oui, non, mais c'est vrai que, en tout cas, ce travail-là, c'est... ces deux maillons de chaîne, enfin, je sais pas comment on pourrait dire, il y a quelque chose qui est, qu'on n'a pas besoin de forcer, c'est-à-dire le relais se fait très aisément entre l'écriture du texte et la mise en scène. Bon, c'est vrai qu'il y a eu aussi un travail inverse, c'est-à-dire que c'est aussi ce qu'on propose dans le cadre de la compagnie, c'est que, il y a un regard extérieur de Delphine et de tout le groupe sur l'écriture, tout comme il y a un regard de celui qui a écrit sur la mise en scène, sur la musique. Enfin, tout le monde donne un peu son avis. Alors, des fois, c'est le bordel.
Ouais, mais
il faut un final cut.
On a vraiment besoin les uns des autres dans ce genre de travail. Enfin, c'est comme ça, en tout cas, que nous, on fonctionne et ça nous va très bien, j'ai l'impression.
Ben moi, c'est vrai que je trouve que c'est important d'écouter l'avis de l'autre. Même si quelqu'un, effectivement, dans une mise en scène, c'est le metteur en scène qui est le final cut et qui décidera... Finalement, voilà. Mais avec une cohérence du projet et le metteur en scène est là pour faire respecter un garde-fou qu'on s'est tous fixé au départ. Mais en même temps, à l'intérieur de ce garde-fou, on a toute latitude pour dire bah oui, tiens. Enfin, chacun apporte quelque chose dans l'objet final. Évidemment. Dans l'idée d'être au service de cet objet final. Personne n'est là pour faire. Grandir son ego pour dire c'est moi qui ai fait ceci, c'est un vrai travail de compagnie, quoi.
On a la chance de travailler aussi tous les uns avec les autres depuis longtemps, donc on a pour le coup un petit peu dépassé
ce
genre de...
Oui, c'est très bien, oui, il n'y a plus de problème.
Moi, je voulais juste pour rebondir sur ce que tu disais toi par rapport à eux-mêmes, d'ailleurs toi aussi, sur la question de la fidélité par rapport au roman. Tout simplement, Joël Egloff est venu à la première du spectacle. Il avait de toute façon déjà lu, il me semble, la première adaptation. Puis il a suivi déjà le travail un petit peu en cours. Il est venu voir le tout premier labo de travail qu'on a fait il y a un an et demi au TGP. Il est venu voir la première. Et lui, je crois qu'il est très content et que lui, il trouve ça très fidèle à ce qu'il a écrit.
C'est déjà pas mal.
C'était un des plus beaux cadeaux qu'on pouvait avoir. C'est-à-dire qu'on n'a pas trahi l'auteur, a priori, et qu'il se retrouve en tout cas... et que finalement, il nous a même dit qu'il redécouvrait son texte, puisqu'il l'a écrit, il a eu le prix en 2004, c'est sorti en 2003, il a dû l'écrire en 2002. Donc pour le coup, 7 ans après... Lui-même, il s'est surpris à rire à ses bons mots, parce que c'est truffé d'aphorismes et
de mots d'auteur savoureux.
Ouais, ouais, ouais. Sur les situations et sur les personnages, et on l'a surpris à rire lui-même des choses qu'il avait écrites, quoi. Donc ça, c'était plutôt.
Est-ce qu'il sera là, Egloff, lors de la première?
C'est passé la première.
La première est passée.
Ouais, ouais, ouais. On a créé le spectacle en décembre, juste avant Noël. On l'a créé le
16
décembre.
C'était où, TGP
Non, c'était à Briey. On a fait notre dernière résidence de création à Briey, avec l'Action culturelle du Pays de Briey, chez Frédéric Tovani. qui nous a super bien accueillis et chez qui on a créé le spectacle. On a joué 3 fois déjà. Et là, c'est une petite reprise au bout de 2 semaines de break au CCAM.
Mais pour répondre à ta question, Daniel, Joël Egloff sera là mardi prochain, le 12.
Ah bon?
D'accord.
Je ne vois pas, moi.
Bah voilà. Il dit, bah si, c'était...
Ah bon, donc Joël sera là le 12.
Oui, oui. Donc, il vient bon, à la première Nancéenne, on va dire. À Malraux,
ah,
donc au CCAM, mardi, ouais.
Super.
Oui, ça, c'est bon.
Il nous suit, en tout cas. Il fait vraiment partie de l'équipe, pour ainsi dire. Et c'est une super rencontre pour nous. Et puis, notamment, entre Benoît et Joël.
J'imagine que c'est quelqu'un de très sympathique, de très ouvert.
Hyper simple, ouais. Vraiment très curieux et puis très flatté aussi que quelques-uns aient trouvé un peu d'intérêt de manière très humble. Il était très content qu'on s'intéresse à son roman puis qu'on a envie de l'adapter.
Benoît, est-ce que tu peux dire que la pièce où elle est aboutie, où elle est actuellement, puisque donc si elle a eu 3 représentations ailleurs, est-ce que tu peux dire que elle est aboutie réellement?
Attention.
Ou est-ce que une demi-heure avant la représentation, tu vas dire il y a encore quelque chose à changer?
Moi, je n'apporterai qu'un regard extérieur sur. C'est plutôt Delphine qui pourrait répondre à cette question, parce que c'est vraiment un travail de mise en scène. Si je peux dire simplement, moi je pense que la pièce est quasiment aboutie, mais comme je trouve que la construction du travail, enfin le plan de travail comme on dit, a été tout à fait respecté, c'est-à-dire qu'à la première, on avait un spectacle qui était en place, avec toutes les petites choses, les petits raccords qu'on se dit « Ah ça tiens, il faut peut-être qu'on améliore un petit peu ça ou ça ou ça », mais je crois qu'avec là-dessus aussi on est d'accord, enfin tout le groupe est d'accord, une première c'est une première, c'est pas une avant générale, c'est pas un test sur le public, il faut que le spectacle il soit en place.
Et bien sûr.
Bien sûr, il y a des choses qu'on peut pas percevoir au départ... tant qu'on n'a pas eu une vraie confrontation avec le public.
Notamment sur le jeu. Hein,
oui, sur le jeu. Puis
ça se déploie au moment de la rencontre
évidemment,
avec le public. Donc voilà, on a un schéma de base qui tient la route à présenter, mais c'est à ce moment-là que...
C'est là que ça se lève ou
ça
pas.
Décolle, quoi.
Il y a une chose qui se passe aussi, c'est que d'une salle à l'autre... Ça n'a pas du tout le même retour.
Avant, on l'a déjà perçu. Sur les 3 représentations, les 3 étaient totalement différentes. Mais alors, vraiment.
Déjà.
Mais ça, je dirais pas plus ce spectacle-là qu'un
non,
autre.
Non, ouais, tout à fait.
Ça va, pour l'avoir, comme tu disais, avoir vécu un certain nombre de milliers de fois, même des pièces dont parlait Delphine tout à l'heure, les 2 petites formes humeur et vanité, qui sont ultra rodées, puisqu'on en est à 150 représentations, quelque chose comme ça. Il y a même des jours où, on a encore des doutes. On se dit, tiens, c'est finalement, on a l'impression, quand on voit les spectateurs en face de nous, qu'ils ont trouvé ça nul. Ou au contraire, qu'ils sont totalement, complètement. Enfin, ça reste, chaque salle reste absolument unique. Je pense qu'en musique, c'est la même chose. On retrouve, selon les salles, le public, il y a une espèce d'entité, il y a quelque chose, des ondes qui se passent dans le public qui fait que, d'une fois à l'autre, eh ben, on a l'impression de faire un autre spectacle. Bien que le spectacle soit strictement le même. Enfin, ça reste du spectacle vivant, hein. Il y a toujours un moment où il y a quelque chose qui change, ou une improvisation, ou quelque chose qui n'est pas tout à fait... Enfin, en bien ou en mal, hein, mais... En tout cas, pour en revenir à notre travail sur ce que je fais là, assis par terre, je crois effectivement pouvoir affirmer qu'à 97%, la pièce est en place. Il reste 3% de raccord, on va dire, que Delphine a prévu de faire avant la reprise à Malraux. Et puis là, normalement, au bout des 5 ou 6 représentations qui ont eu lieu au CCAM, la pièce sera prête à vraiment partir en tournée, comme, comme tous les spectacles qu'on a pu faire. Il arrive parfois qu'on se dise au bout de... Ou bien qu'on se dise dès la première, bon là, on s'est vautré. Hein, le retour du public fait que...
C'est déjà arrivé, ça?
Oui, c'est déjà arrivé, bien sûr. Ouais. Et alors donc là, on dit, on fait la série, et puis on décide de reprendre le travail, ou d'abandonner le projet, parce que c'est foiré, ça arrive, hein. C'est ou au contraire, comme par exemple ce qu'on a fait avec Antoine, avec Les Fruits du Hasard, avec la pièce qui s'appelle Désiré. C'est une pièce qui a été jouée pendant, une 20-30 fois, puis on s'est rendu compte qu'on avait envie aussi nous-mêmes de l'intérieur de changer des choses. Choses qui nous semblaient un petit peu plus faibles, où le rythme n'était pas là. Et on a décidé d'emblée de dire, on va améliorer notre travail. C'est pas que les gens n'en soient pas contents, c'est nous, on a envie de changer. Parce que c'est du spectacle vivant, il faut que ça évolue. Donc tous les cas de figure sont possibles, quoi.
On va peut-être prendre une petite pause. Là, Antoine, qu'on n'a pas entendu beaucoup jusqu'à présent.
Ça nous repose.
Je me réveille.
C'est un musicien, c'est vers midi.
En même temps, je suis bercé par ces voix. T'as vu ? Ils ont vraiment des voix radiophoniques. Hein.
Ils
pourraient même te remplacer, peut-être.
Oui, peut-être.
Je sais pas. Hein, c'est une proposition.
Oui, mais je ne sais pas. Enfin, je leur déconseillerais de t'inviter, par contre.
Pause. C'est le moment de lancer la pause.
Tu sais déjà, on n'habite plus chez nous, hein. C'est pas pour rien.
C'est vrai, je suis un peu un paria.
En fait, c'est un
seul refuge, cette radio.
Invitez-moi.
Bien, alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Ah,
alors, moi, je vous propose Django Bates. Peut-être que tu connais.
Oui, tout à fait.
Voilà, donc en grand ensemble, le dernier album, Spring. Et c'est un big band, et c'est jubilatoire, enthousiaste.
Comme d'habitude.
Et voilà, et très. Et pause.
Thank you.
Voilà, c'était John Govett. Et alors, celui que l'on n'a pas entendu aujourd'hui, là, qui a failli déramer tout le matériel, mais ça, c'est autre chose.
Tout est vieux ici.
Antoine Arlot. Antoine, quel est ton rôle dans cette pièce?
Alors, mon rôle, il a été nouveau et petit et grand à la fois. Alors, nouveau parce que c'était moi, j'étais effectivement l'oreille extérieure. Donc, c'est un rôle que j'ai découvert. C'est-à-dire, j'étais supposé renvoyer un regard à Pierre Bosslug et à Delphes, mais surtout à Pierre. Voilà. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, toute la pièce a été construite autour d'un canevas que Delphine a mis en scène, mais aussi sur une idée de confrontation, une confrontation d'idées. Et donc, c'est sûr que moi, je suis arrivé à ce qu'on se disait hier, pour donner de la distance par rapport à la musique de Pierre. Pierre, il était dedans, il était confronté à des temps différents, il était immergé dans des rapports aux comédiens,
des situations un petit peu à une
mise en scène qui était découpée. C'est pas forcément des choses que nous musiciens on connaît très bien.
Isolé aussi physiquement.
Isolé physiquement, seul, un rapport au son.
2 mètres de haut.
Vraiment. Une façon de concevoir la musique presque en aveugle, voilà. Ou alors, en tout cas, en rapport direct avec ce qu'il sentait tout proche, mais pas forcément avec le spectacle. Donc c'est sûr que moi j'étais là pour donner une idée de la manière dont cette musique s'inscrivait dans le spectacle et non pas dans son rapport au comédien. Et ça, c'est vraiment, pour les musiciens, c'est quelque chose de très différent, puisque nous, on est vraiment dans une construction de château de cartes émotionnelle, directe. C'est-à-dire, ce qui tient, c'est ce qu'on entend là, tout de suite, à côté. Alors que là, la musique était vraiment au service d'un spectacle. Et donc, c'était une dimension qu'ils ne pouvaient pas forcément percevoir entièrement. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était mon rôle. C'était mon rôle et c'est quelque chose que j'ai découvert.
Ça, c'est le rôle dans la préparation.
Non, c'est le rôle dans une. Quand je dis une confrontation, c'est une confrontation intellectuelle. C'est-à-dire, c'est une confrontation, c'est un échange de valeurs ou c'est comme un étalonnage. Parfois, c'est très pragmatique. C'est le son trop fort, le son pas assez fort par rapport au texte. Tu vois, ça, c'est des choses. C'est vraiment basique.
Ouais.
Et puis parfois, c'est des dimensions qui sont plus inscrites dans le temps. Il y a des choses, si on a des feedbacks musicaux, ou si on a des récurrences qui reviennent, des rappels, c'est des choses. À l'extérieur, on voit très bien si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. On voit très bien si ça s'inscrit vraiment dans le temps du spectacle, ou si c'est vraiment simplement un temps musical et qui correspond pas forcément à ce temps du spectacle. C'est toujours, il y a plusieurs dimensions, mais c'est sûr que hier, par exemple, on parlait de ça, Le temps de développement pour que la musique existe, parfois, n'est pas du tout le même qu'un temps pour faire exister un texte ou qu'un temps pour faire exister une image, etc.
D'accord. Voilà. Mais durant les représentations, à partir du 12 ou les trois présentations précédentes, tu as un rôle durant les représentations, justement.
J'ai encore des devoirs. C'est-à-dire que je suis un peu. Cette histoire, en fait, c'était une immense poursuite, une course-poursuite entre Delphine Bardot et moi-même. C'est-à-dire que je recevais des coups de fil, je vais te raconter ma vie, mais vers 2h du matin, me disant est-ce que ma bande-son est terminée ? Bande-son que nous n'entendrons pas. À mon avis, jamais, puisqu'elle a disparu dans les oubliettes de ce spectacle.
Pierre en a honte, il ne la met pas, pas très fort. Voilà.
Pierre, on lui demande rien, on lui dit de faire ce qu'on lui demande de faire. Voilà. Bon, ce qui fait très bien. Pierre est vraiment magnifique. Non, c'est pas vrai. Est-ce que j'ai encore des choses à faire? Oui, c'est toujours. Mais oui, parce que, comme disaient Benoît et Delphes, c'est. Malgré le fait que le spectacle soit fini dans sa conception. Et ça reste quelque chose de dynamique, c'est-à-dire ça reste quelque chose en mouvement. Il y a toujours l'étalonnage d'un spectacle, c'est jamais définitif parce que ça change selon les salles, ça change selon le temps. Par exemple, entre la première que j'ai vue et la précédente qui avait lieu, enfin que j'avais vue une semaine avant, pour moi j'ai vu un spectacle absolument différent, complètement différent. C'est à ce point-là, je pensais pas que c'était
aussi grand, quoi, comme différence. Et je pense que dans 20 dates, ce spectacle sera encore différent.
Mais ça, c'est
une sorte
c'est
de territoire, quoi, qui évolue.
Quand on peut prendre une pièce sur une durée assez longue, si tu vas à la première de la pièce et à la dernière, tu trouveras automatiquement toujours quelque chose de différent.
Oui, mais d'autant plus que là, bon, et là, je vais, comme Benoît, je vais louer Delphine Bardot en direct sur 90.7. Delphine qui fait semblant de s'endormir, mais qui a les oreilles toutes grandes ouvertes. Disons que cette mise en scène-là, il n'y a pas d'improvisation au sens propre du terme. C'est-à-dire que le spectacle ne se construit pas par l'improvisation. En revanche, il se nourrit par des éléments d'improvisation, notamment dans la musique, parce qu'il y a des séquences, et aussi parce que cette mise en scène, elle a laissé beaucoup de place à la sédimentation, à l'accumulation d'expériences. Et les comédiens, par exemple, vont énormément se densifier. Tu vois, c'est toujours un feedback. Découvrir une nouvelle salle, un public, c'est découvrir un nouveau temps pour faire exister les choses. Mmh. Et ça, c'est de l'expérience qui rentre. Et à mon avis, le changement, il a surtout lieu là. C'est-à-dire, il a lieu sur une connaissance un petit peu de l'émotion. Voilà. Bon, Delphine, elle a cette mise en scène-là, je la loue parce qu'elle n'est pas fermée. Elle laisse de la place à ça. Il y a vraiment... c'est en ce sens qu'elle appartient un petit peu, évidemment, à ceux qui sont sur le plateau, mais aussi à des petites parts qui appartiennent à tout le monde parce que ben voilà, elle a été construite par tout le monde autour de Delphine, voilà, on va dire.
Moi j'ajouterais juste une chose, justement sur l'intervention de Benoît et d'Antoine dans ce projet, puisqu'ils étaient tous les deux ni sur le plateau, ni vraiment là tout le long des répétitions. L'intérêt d'avoir construit le travail comme ça, pour moi en tout cas, ce qui était super, c'était qu'on a vraiment mis beaucoup de choses en commun dès le début, on a construit beaucoup, on a pensé aux choses vraiment tous ensemble, et puis il y a eu différentes étapes de travail, des laboratoires de recherche qui cherchaient autour d'une scène isolément, ou d'un univers sonore, ou de la confrontation, entre le texte et la musique. Et puis doucement, ensuite, sur les moments vraiment de répétition, ça s'est un peu resserré sur l'équipe, donc les deux comédiens et le musicien sur le plateau, d'ailleurs j'ai pas dit leur nom, c'est Eric Domenicone, Alexandre Picard et Pierre Boslug, le musicien. Après, quand on s'est retrouvés vraiment tous les quatre avec la présence aussi récurrente de Yves Welchinger, qui m'a beaucoup aidée aussi, ce qui était intéressant, c'était que moi j'étais dans une immersion totale. Et qu'avoir leur regard un petit peu distancié, parce qu'ils avaient le loisir de pouvoir partir, revenir, ça c'était assez salvateur pour moi, parce que ils étaient. C'est pas comme si c'était vierge à chaque fois, mais en tout cas, il y avait
un regard nouveau. Eux,
ouais.
Oui.
Et je pouvais expérimenter aussi des choses, leur soumettre un peu à distance. Enfin, c'était un aller-retour qui était vraiment, vraiment intéressant. Je pense que ça aurait été difficile si tout le monde avait été là tout le temps. Parce que la bande de mecs, il y a quand même une sacrée bonne ambiance à la soupe. Donc ça déconne beaucoup, ça vit. C'est très agréable à vivre et ça contribue énormément au travail. Mais c'est vrai que des fois, on a besoin de resserrer.
Mais enfin, ça n'empêche qu'ils prennent leur rôle, leur travail au sérieux, certainement.
Ah, tout à fait. C'est comme ça que je conçois le travail aussi. J'ai besoin de rigoler avec mes amis, mes collègues dans le travail. Mais c'est une question d'énergie. Et quand on est à... Parce que finalement, ils sont trois sur le plateau, mais l'équipe, on était 12, je crois. Enfin, c'est une grosse équipe avec beaucoup de testostérone quand même, même si,
Vous êtes des êtres...
Oui, je sais.
Voilà.
Même si vous êtes des êtres extrêmement délicats, ça déménageait, quoi. Et c'est vrai que des fois, c'était bien d'être à moins. Et puis, au contraire, des fois, de retrouver toute l'équipe avec toute l'énergie que peut créer cette émulation, quoi.
Ouais.
C'était vraiment intéressant, en tout cas, comme aller-retour. Ouais.
Benoît, je voudrais juste préciser, apporter une précision à ce que dit Delphine, c'est que Ise Welchinger, pour les auditeurs, faut le dire
bien
quand
sûr,
même,
ouais.
C'est elle qui est responsable des marionnettes, enfin qui a fabriqué toutes les marionnettes et qui a conçu toute la scénographie du spectacle. Ise est à la fois marionnettiste, comédienne, et dans son rôle de marionnettiste, elle est aussi conceptrice de marionnettes. Parce que c'est un spectacle qui a quand même une dimension marionnettique très importante. La soupe, c'est un des trois piliers un des fondements de la compagnie, c'est la marionnette. Donc, je voulais juste repréciser que son travail marionnettique est très, très, très important. D'autant que, ben, on avait une grande galerie de personnages à illustrer, même si on en a abandonné un certain nombre. Donc, il y a quand même, en plus de nos trois êtres vivants sur scène, il y a, je sais pas, une dizaine de marionnettes.
Il y en a moins.
Sept marionnettes, voilà. Mais qui ont chacune des scènes, des vraies scènes à elles.
Oui,
c'est
bien sûr.
Donc voilà, je voulais juste repréciser.
Oui, et de toute façon, voilà, de manière générale, c'était un travail, je le redis, hein, mais très collectif, où chacun a mené son talent, ses compétences, et les mettait vraiment au service du propos, plus que du spectacle même. D'ailleurs, on n'a pas du tout parlé ce que ça raconte quand même, ce spectacle. C'est l'écroulement du monde, c'est quelque chose qui est a priori très pessimiste, très très noir comme propos, dans lequel on s'est retrouvé alors qu'on aime plutôt bien se marrer, mais parce que c'était une façon de traiter de cette chose-là qui nous séduisait, à travers l'humour noir, à travers la distance, à travers des anti-héros. C'est vraiment deux super losers, et même peut-être trois, puisqu'ils sont trois sur le plateau, et que je pense que Pierre est un peu loser aussi dans son pantalon moulant bleu. Voilà.
Alors toi qui t'y connais très bien, Delphine,
Un loser.
Ah oui.
Non, je ne parle pas de Benoît, non. Non, toi qui t'y connais très bien dans les marionnettes, quelles sont les sortes de marionnettes qui sont utilisées?
On a plutôt choisi des marionnettes à proportion humaine, puisqu'on voulait que le spectacle puisse se voir déjà d'un petit peu loin, ce soit pas fermé par la proximité. On voulait pas des petites marionnettes de 20 cm de haut. Et puis on voulait que ça joue avec les comédiens. Donc elles sont plutôt à taille humaine. Sauf que, vu qu'elles s'extirpent de gouffres à chaque fois, en général elles sont amputées d'un membre ou de plusieurs membres. Donc elles sont... Parce que ça aurait été compliqué, des marionnettes à taille humaine avec tous leurs membres, ça aurait vraiment été impossible à manipuler.
Ils ne sont que deux manipulateurs.
Et puis que surtout, ces marionnettes, elles sont indissociables de l'espace scénographique. Parce que pour représenter l'écroulement du monde et la fissure, qui est le thème récurrent du spectacle, hein, que ce soit la fissure concrète du monde ébranlé, ou alors la fissure d'un point de vue plus métaphorique et métaphysique, il y avait vraiment quelque chose à représenter, enfin à donner à voir, pour aussi évoquer tout ce que nous on a ressenti en lisant le roman et qu'on a beaucoup cherché. C'est là aussi où Isuel a eu un rôle super important, au même titre que Eric, qui est comédien mais qui est aussi directeur artistique de la compagnie avec Isuel, donc qui a forcément un regard sur ces choses-là. On a vraiment mis ça, beaucoup de choses en commun pour construire un espace qui évoque le no man's land, qui évoque plein de choses sans être trop signifiant, en fait.
Et puis qui n'a pas véritablement d'équilibre.
Ah ben, ça, je vous laisse venir le découvrir. Mais oui, c'est sûr qu'on évoque un monde et un univers à l'équilibre précaire. Oui. Donc tout peut basculer, tout peut s'écrouler ou se disjoindre à n'importe quel moment.
Oui.
Voilà. Donc ça, c'était aussi un gros enjeu du spectacle, représenter le monde qui s'écroule sur un plateau. Il y a beaucoup de nos partenaires, de nos coproducteurs qui ont vraiment une grande confiance en nous, qui nous ont dit bon ben ok, allez-y. Mais alors comment vous allez faire ça? On dit ben on sait pas non plus encore. Mais...
D'ailleurs, c'était un des grands intérêts de ce projet, c'est comment on va faire ça. C'est sûr que quand on a quelque chose qui est déjà un petit peu précontraint ou bon, mais là, il y avait vraiment une espèce de pari un peu débile, peut-être.
C'était pas de du comment on représente cette écrite, histoire. Hein.
Ouais.
Ouais, c'était, il y avait vraiment tout à inventer, et en même temps, on avait vraiment envie que ce soit libre d'interprétation aussi de la part du spectateur. On voulait que lui aussi, il ait une part active là-dedans, évidemment, comme dans ce qu'on aime bien faire.
C'est aussi ça l'intérêt du théâtre, c'est d'aller chercher, d'aller proposer des pistes au spectateur. Puis après, lui, c'est son imaginaire qui fonctionne. Rien n'est figuratif sur le plateau, enfin, très peu de choses. Pourtant, à l'issue de la pièce, on a vraiment une histoire qu'on nous a racontée. Effectivement, tous ces immeubles qui s'effondrent les uns après les autres, on a toute cette progression de monde qui s'effondre. Alors que Évidemment, il n'y a pas d'effets spéciaux.
Il y en a quand même. Mais
ça reste des bouts de ficelle. Ouais, quoi. Ça reste du théâtre.
Du décor de théâtre, ouais.
Et en ça, c'est ça qui était passionnant dans ce projet. C'était comment, par nos...
Puis comment faire vivre leur chant. Ça, c'était aussi une sacrée question. Le roman, il nous parle d'un bonhomme dans une rue, dans une ville, enfin dans un quartier à Paris, à Montmartre. C'est sûr que c'est un tout petit bout, du désastre, mais qui laisse présager toute la planète qui s'écroule. Donc voilà, c'est beaucoup de questions qu'on s'est posées sur qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on montre pas, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on suggère. C'était vraiment tout ce travail-là, en scène, quoi.
En plus, Egloff, il a une écriture qui est très cinématographique. D'ailleurs, il a une formation plutôt de cinéma. Et donc, qui nous permet, alors peut-être, ça, c'est peut-être aussi une des facilités, c'est-à-dire qu'on a déjà une progression en termes d'image et de construction scénaristique, presque dans son histoire, dans ce bouquin comme dans ses autres livres. D'ailleurs, son premier roman, d'ailleurs, il vient de finir une adaptation pour le cinéma. Donc, il y a, dans son écriture même, une construction scénaristique qui fait que, on peut un petit peu naviguer. C'est vrai, cette histoire du hors-champ est très importante, mais comme on pourrait l'avoir au cinéma. Alors au cinéma, la caméra va pouvoir se déplacer un moment pour aller visiter le hors-champ, on va dire. Là, nous, il faut qu'on le fasse vivre par le son, par le regard qu'on y porte. Mais c'était ça aussi l'intérêt, c'est de comment on fait vivre ce hors-champ. Et même ce sous-champ, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les sous-sols, puisque les maisons et les immeubles et les villes s'effondrent sur elles-mêmes, elles rentrent dans le sol, en quelque sorte, on pourrait dire.
D'accord.
Donc il fallait aussi faire vivre le sous-sol. Et dans la dimension de la
mise
en scène.
Sans faire des trous dans les plateaux des théâtres dans lesquels on va.
Ouais. Ah, voilà. Et il y a aussi la dimension.
Je crois pas qu'il y ait de trappe à Malraux.
Ou alors ils nous les cachent, mais.
Bon, moins de jouer à l'opéra, mais. Et puis il y a aussi l'idée du ciel qui était très importante, que la mise en scène a traité sous forme. Aussi sous forme d'image. Il y a quand même un peu de l'image, mais de l'image tout à fait brouillée, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec une vidéaste, on va dire, il y a des images qui sont envoyées, qui sont intégrées complètement à la scénographie et à l'histoire, qui sont pas un film qui nous raconte quelque chose, mais pareil, qui sont un déclencheur d'imaginaire pour le spectateur.
Il y a très peu de vidéos, c'est beaucoup de l'image animée, en fait.
Voilà.
Parce qu'on voulait pas être dans le déploiement des faits.
Un petit passage vidéo, mais qui est presque de l'ordre du gag, on va dire. Enfin, c'est construit comme une sorte de gag. Ce personnage principal, à un moment, rencontre sa sœur, et en fait, non, je raconte pas.
C'est presque de l'ordre du gag. À découvrir.
Oui.
En tout cas, on a travaillé sur aussi l'idée du double et sur l'idée de la parce que dans l'idée, ce personnage-là, il nous raconte toute cette histoire, il peut tout à fait avoir tout inventé, comme dans beaucoup de spectacles d'ailleurs, souvent. Mais là, l'idée, c'était que les choses, elles reprennent corps, soit à travers des marionnettes, soit à travers sa propre image, en fait. Voilà. Je laisse un suspense.
Bien, alors, cette pièce va être prise ou reprise le 12 à Malraux, et il y a d'autres jours.
Les dates, je les connais
pas. 12, 14 et 15, sachant que le 14 et le 15, ce sont des représentations scolaires. Donc d'accord. La seule représentation tout publique, c'est le 12 à 20h30 avant d'œuvre à Malraux.
D'accord.
Et ensuite,
c'est le 26, je ne vais pas dire de bêtises, ça doit être le 26 janvier au TJ. Non, il y a bien plus de dates que ça. Attendez, je vous dis ça. Non, c'est 19, 21, 22, 23 au TJP à Strasbourg. Et ensuite, ça nous emmène... Et ensuite, c'est Charleville. Et dans les dates qui peuvent concerner les Nancéens aussi, c'est le 27 avril au TGP à Frouard, qui est donc le théâtre où on est en résidence.
Une seule séance ou...
Oui, il y en a... Non, il y a deux séances, mais deux sur la même journée, je crois, le 27.
D'accord. Scolaire, et puis ensuite...
C'est ça. Je suis plus sûre. Il faut aller regarder sur le site lasoupecompagnie.com. Il y a tout. Ouais. Les calendriers, les photos, toutes les vidéos.
Il faut préciser que c'est un spectacle qui n'est pas, dans sa conception, destiné à un jeune public, tout jeune public, mais qu'on a considéré, l'ensemble du groupe a considéré qu'effectivement, il pouvait être vu par des adolescents.
Des collégiens.
Collégiens et lycéens, à partir de 10-12 ans. bien que le spectacle ne soit pas conçu comme un jeune public, enfin je m'entends bien, c'est vraiment un spectacle tout public qui peut s'adresser à des plus jeunes.
Oui, qui peut au niveau du ton concerner des adolescents.
Puis il y a aussi toute une notion écologique dans l'histoire qui est très forte, enfin je veux dire, qui nous parle et qui, je pense, peut susciter aussi un grand intérêt chez les ados.
Ça peut résonner avec l'actualité, hein, et sur la question de la fable écologique, puisque c'est quand même le monde qui s'écroule sous le poids de ses conneries. Si ça n'a pas un rapport direct avec Copenhague.
Le mot qui résume.
Voilà. Et puis il y a aussi un vrai propos sur l'individualisme, sur le fait de ne pas se retrouver à travers l'image des autres, ce qui, à mon avis, concerne aussi un adolescent. Le fait de se sentir un peu insulaire, un peu différent, quoi, ce qui est le cas de nos personnages principaux.
Alors, Antoine, je vais te laisser le dernier mot, même s'il n'a pas de rapport direct avec la pièce. Qu'est-ce que je fais s'il y a dans le... là, c'est sur les bruits abattus. Oui. Tu as oublié de nous en parler hier.
J'ai parlé que d'APTI. Voilà, tout est dit. C'est le film Bardot.
Alors ça, les bruits abattus, c'est la musique qui s'adresse.
Ça, c'est de la vraie musique.
Du tout plus petit au plus grand. Hein. J'ai testé sur des enfants de 4-5 ans.
Ça marche sur des films Bardot et ça marche sur les enfants de 4-5 ans. Donc c'est bon.
Ça renverse.
Peut-être que Daniel va aussi être renversé, donc comme ça on aura.
Non, je les ai entendus une fois ou deux. Tu dois, je m'adresse à Raphaël. Tu dois avoir déjà passé les brutes abattues. Oui. Je les ai entendus une ou deux fois ici, mais c'est vrai que j'aimerais bien posséder le disque pour pouvoir me rendre compte de l'entièreté. Voilà.
Bon, en tout cas, on joue le 16 à la MJC de Libonne.
Le 16 juin.
Le 16 janvier 2010, donc c'est vraiment tout proche. C'est un concert qui est organisé par la compagnie Flex. Voilà, c'est Francis Albiro. Ils ont un week-end qui s'appelle Flex Week à la MJC Libonne. Il y a plein de spectacles de clowns, des expos, je crois qu'il y a une boutique, enfin voilà. Et nous, on joue donc le 16 janvier à 22h30 à la MJC Libonne. Voilà.
Oui.
C'est
de la musique, mais c'est aussi impressionnant que le cirque, parce que quand il joue, Antoine on croit qu'il va mourir tellement il souffle longtemps dans son truc. J'avais peur, j'étais prête à intervenir pour lui faire du bouche à bouche.
Elle dit ça parce qu'elle est protégée par un petit chinois devant sa bouche, donc elle peut se lancer à dire des trucs pareils sans problème.
De qui c'est constitué?
Alors oui, donc effectivement, il y a Michel Deltruc, qui est une batterie portative, enfin voilà, c'est une sorte de fanfare de scène en fait. Hein.
Ouais.
Il y a Julien Bogenschus au baryton, Véronique Mougin au clavier et à la grosse caisse. Clavier, c'est plutôt xylophone.
D'accord.
Et, voilà. Ouais. Il y a Didier Barrois
au
corps d'harmonie. Ouais. Voilà, et puis moi-même donc à l'alto.
À quoi pour l'instant.
Il y a quand même 100 000 personnes qui
nous écoutent. Pour l'instant, oui.
Enfin, oui.
Il pourrait être son bidouilleur électronique.
Oui, non,
ça, c'est pas ça.
Il a d'autres projets bien plus ambitieux.
Oui, je sais.
Et voilà, et pour changer de sujet, en fait... Non, en fait, ce groupe-là, il a la particularité aussi d'avoir des improvisations jouées. Voilà, qui sont faites en ce moment par Michel Deltruc, mais il y a tout un amas d'objets qui sont mis en œuvre, voilà.
Musicales. Ah, des improvisations jouées.
Ouais.
ETS.
Jouées.
Une improvisation jouée, je pensais.
D'accord, non, mais je pense qu'on va continuer la discussion après en off. Voilà, donc j'ai amené le CD quand même.
Oui.
Hein, c'est bien, hein.
Oui, donc on va pouvoir l'écouter, là, c'est...
Alors, attends. Oui. Donc, le 12 APT. On est d'accord.
Apathé, ça veut dire.
C'est le nom de code.
Mais non, mais on est assis par terre.
Toute la France le sait. Apte à jouer.
Antoine, on est à la radio.
Mais oui, mais on en a parlé hier. J'ai tout exprimé. Le nom de code.
Les gens qui ne travaillent pas le mardi.
Voilà, alors, ce que je fais là, assis par terre.
Voilà.
Et non pas ce que je fais assis là, assis par terre. C'est très difficile. Roman de Joël Aigloff. Mise en scène par David Bardot.
Adapté par Benoît Fourchard.
Voilà, adapté par Benoît Fourchard. Avec plein de gens. Tu veux qu'on les cite?
Ah, c'est Dieu.
Si, un petit peu. Alors, Éric Dominicone, Pierre Bosflug et Alex Picard, ça c'est sur le plateau. Les costumes ont été faits par Daniel Trento, la lumière par Christian Peckert. Voilà.
La vidéo par Marine Drouard, voilà. Enfin la vidéo, tout le travail sur l'image projetée.
Exactement, c'est important.
Voilà,
les marionnettes. Lise Wechinger a fait les marionnettes
et puis, la scénographie quand même.
Et puis
l'assistana, sur vraiment le dernier voilà. moment, elle m'a assisté. De manière très intense.
Le spectacle est diffusé à l'international par Babette Gat.
Voilà. Oui, je sais, le temps passe, mais t'inquiète pas, mais attends.
Il veut écouter les brutes, alors. Mais lui, les brutes.
Tout ça le 12, hein. Le 12.
Le 16. Le culturel André Malraux de Vendôme, voilà. Les Nancy.
La super scène nationale de Dominique Lepéco.
À Lillebonne, pour te
voir. Et le 16 pour nous, voilà.
Voilà, alors Benoît, Delphine et Antoine, merci beaucoup d'être venus nous parler de la soupe, du prochain spectacle le 12 à Malraux, etc.
Merci,
etc.
Merci. Je précise juste aussi, pour dire une petite chose, c'est que la soupe est présente au TGP à peu près tout le temps,
tout
notamment
le temps.
Au festival Géo Condé. On sera présent. Il y aura un nouveau spectacle qui s'appelle Macao et Cosmash qui va être créé aussi à ce moment-là avec Iseu justement et Pierre.
D'accord.
Voilà.
Très bien. Beep, 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 beep.